Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris déjà ce matin encore une fois, et nous répétons toujours la même prière en t'adressant des remerciements. Encore merci. Merci parce que tu nous as parlé déjà. Et nous savons que tu as parlé à notre cœur et chacun de nous pouvons expérimenter cela. Merci pour cette paix que tu mets en moi, en nous. Merci pour ton enseignement. Merci pour ce témoignage de mes frères et sœurs qui me parlent, qui m'enrichissent et qui participe à cette paix intérieure. Je remets entre tes mains ce message, ce court message, et que toutes ces interprétations que tu peux avoir, qui peuvent venir de l'homme, de moi, soient balayées, et que mes frères et sœurs ne gardent ce que toi tu as envie qu'ils gardent. Je reconnais devant toi ma faiblesse, ma faillibilité, mes erreurs, je les dépose au pied de la croix. Et je te prie, Seigneur, de les sanctifier. Et j'implore ton sang précieux qui me lave de mes erreurs, de mes péchés. Et que tu puisses me regarder à travers cette croix, cette sainte croix, la seule qui nous rend acceptable devant le Père. Merci par avance et que ta volonté se fasse. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit au début de nos rencontres ce matin, le titre c'est « Sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur ?» Donc c'est une question, ça fait quand même pas mal de semaines, on est sur cette thématique-là. Et ça a continué avec l'intervention de Toby hier soir. On voit que ce qui est écrit dans la Bible, eh ben la science vient appuyer ce qui est écrit. Donc la science est un don de Dieu. Et la science peut être au service de sa parole. Et à travers l'exposé d'hier soir, nous rendons compte que notre planète est fragile. Eh oui. Nous nous rendons compte aussi que le coupable, ben c'est nous. Vous voyez ? L'homme est coupable. Le plus grand prédateur de l'homme, c'est l'homme. Avec un H majuscule, bien entendu, j'intègre l'humanité, l'homme et la femme. Et ceci, la Bible nous dit, depuis la chute. Vous voyez ? Depuis la chute. Tout ce qui est issu de la chute n'est que maladie, aliénation sur aliénation. Autodestruction. Et nous le voyons à travers l'exposé d'hier soir, un exposé tangible sur l'état du monde, sur ce qui nous attend, et surtout les choses se sont accélérées depuis qu'on croyait que c'était un sacré progrès pour l'humanité. La révolution industrielle. On dit, oh là, depuis la révolution industrielle, l'être humain est heureux. On peut produire plus, vous voyez, on peut s'épanouir, on vit plus longtemps. Oui, et en même temps, c'est durant cette période-là qu'on a l'impression que les choses s'accélèrent. Et c'est un exposé utile pour les adultes et les plus jeunes. Merci Toby pour la présentation d'hier soir. Nous avons lu tout à l'heure plusieurs passages, mais je vais en garder pour deux que je vais vous relire. Pour voir que l'objectif de l'Église, ce n'est pas de s'épanouir, d'être heureux parce qu'on se voit, on discute, on mange ensemble. Non, parce que la finalité, c'est l'éternité. Si vous payez le prix dans ce monde et gagnez l'éternité, tant mieux. Si c'est l'inverse, alors on a tout perdu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 7, je relis ce passage. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous voyez la promesse du Seigneur. Je vais vous préparer une place. À chacun de nous, il prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle gloire. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas, comme nous, comme chacun de nous, lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, tout simplement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, et c'est très important ça, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, comme nous, comme chacun de nous, parce que nous sommes chrétiens, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Passage très clair, très édifiant. Et le deuxième passage, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Qui va avec ? Réjouissons-nous. Vous voyez, il est question de réjouissance, de joie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Réjouissons-nous parce que nous faisons partie de cette église qui ira à la rencontre du Seigneur. Si, je dis bien, j'ajoute si, cette épouse qui est l'église est revêtue d'un fin lin éclatant pur et qui porte des œuvres justes, des saints, c'est-à-dire une église sanctifiée. C'est clair. Tous les chrétiens de toutes les générations forment le corps du Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous faisons partie d'un corps, le Seigneur Jésus-Christ, dont il est la tête. L'église avec un grand E, c'est pas l'église locale, bâtiment, ça n'a pas, on va dire, c'est pas le sens de l'église. C'est, qu'on est bâtiment ou pas, l'église c'est la communauté, c'est le rassemblement des frères et sœurs. Et dans l'église au début du siècle, l'église primitive, il n'y avait pas de lieu où ils se rassemblent ensemble. C'est au deuxième, troisième siècle qu'un lieu commun est instauré pour que les chrétiens se rassemblent. Une des raisons, il y avait une des raisons politiques pour contrôler. Mais même ça, le Seigneur l'utilise pour la communion fraternelle. Mais au départ, les chrétiens se réunissaient dans des familles. L'église chez elle, et l'apôtre Paul, quand il écrit, c'est comme ça qu'il écrit. Bientôt, peut-être, il viendra le jour où on sera amené à quitter cette église bâtiment pour vivre l'église maison. On n'en sait rien. Mais si ça arrive, il faut qu'on soit prêt. Eh bien, cette église, avec un E majuscule, c'est-à-dire les frères et sœurs qui se réunissent sans limitation de lieu géographique, mais dans cette communion dans le Christ, eh bien, cette église se prépare pour rejoindre le Seigneur et devenir ainsi un avec lui, dans une communion, dans une union parfaite, totale. Nous sommes appelés à célébrer déjà sur terre les noces de l'agneau. La Bible nous dit « Réjouissez-nous » avant même. Réjouissez-nous parce que nous allons retrouver le Seigneur. Eh bien, nous pouvons déjà, dès maintenant, fêter ces noces. On peut les appeler les fiançailles, si vous voulez. Mais c'est une préparation pour aller rejoindre notre Seigneur. Nous aspirons à une éternité. C'est ça l'objectif de l'Église. Ce n'est pas l'épanouissement temporel dans ce monde, bien qu'il faut aussi, parce que le Seigneur le dit, réjouissez-vous dans ce monde. C'est une obligation aussi. Mais le plus important, c'est l'éternité. L'éternité commence ici en nous et elle s'achève dans l'éternité, ou plutôt elle continue dans l'éternité. La Bible parle de ce jour comme un aboutissement de la création entière. Comme si c'était voulu de toute éternité, où Dieu, avant même la création du monde, il voyait au bout son fils marié à l'Église. Oui, avant même la création. Il voyait cet événement comme l'accomplissement de la volonté de Dieu, de sa volonté, voulue de toute éternité. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 17, je vous lis. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Il est en train de nous parler déjà d'éternité. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image invisible, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout. Vous rendez compte, c'est cet héritage que nous allons avoir avec une communion avec le Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, nous sommes déjà pour lui, par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est ce qui nous attend. C'est quelque chose qui est réel déjà dans notre vie actuelle. Spirituellement, le Seigneur, il a tout accompli. Il nous invite à rentrer dans cette réalité-là. Qui nous prépare pour l'éternité? Pour faire partie de cette église, aller dans l'éternité, Dieu nous prépare dans ce monde-là. C'est-à-dire, il rentre l'église dans une sanctification pour qu'elle soit apte. Il met le cachet, maintenant tu peux aller dans l'éternité. Mais s'il n'y a pas ce cachet de la sanctification dans ce monde, on peut être chrétien, je peux faire les meilleures œuvres du monde, je peux appliquer les lois, je peux venir tous les dimanches à l'église, toutes les réunions, je donne tout mon argent, comme Zachée, il l'a dit. Ce n'est pas pour autant que je ferai partie de l'église qui ira à la rencontre du Seigneur. En effet, avant la création du monde, Dieu regardait ce moment glorieux où l'église, avec un grand E, communauté, corps du Seigneur, s'unirait enfin à l'agneau immolé qui est son fils Jésus-Christ. Il est question d'agneau immolé avant la création du monde. Vous voyez, déjà le Père voyait déjà ce moment extraordinaire quand l'église ira rejoindre son fils Jésus-Christ. En créant le monde, le Père Céleste avait en tête ce moment glorieux où il offrirait à son fils une épouse. Quel rêve des parents, voyez, où nos fils, par exemple, et qui nous présente son épouse. Voyez, c'est la joie. Et en même temps, on espère que c'est une épouse qui te rendra heureux. Voyez, c'est la même chose, en fait. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, le Père. Il ne mettra pas n'importe quelle épouse pour son fils. Hein. Et je me le dis à moi le premier. S'il ne nous trouve pas dignes, on n'ira pas. C'est pour ça que l'épouse, il la prépare dans ce monde. C'est ce que la Bible appelle sanctification. La vie dans l'esprit. Il offrirait à son fils une épouse prête, sanctifiée, pure, mais surtout une épouse ayant la connaissance de la profondeur de son amour, devenant ainsi capable de l'apprécier et de le refléter avec la même intensité. Une épouse qui connaît l'amour du fils pour elle, pour lui rendre le même amour. Le mariage en est l'exemple visible dans notre monde. Combien maintenant regarder le monde, ce qu'il fait du mariage dans ce monde, et en l'occurrence dans notre pays. Ça, le mariage, on l'a dévoyé. Pourquoi se marier maintenant aujourd'hui? Je peux vivre en concubinage. Et j'ai même entendu des chrétiens justifiés. Mais attends, est-ce qu'on a besoin du mariage? Du moment qu'un couple se rencontre devant le Seigneur, ils peuvent vivre leur vie. Vous voyez? Le mariage, dans ce monde, c'est l'image visible de ce mariage qui nous attend. Et si nous ne savons pas ce que c'est que le mariage, la valeur du mariage, la responsabilité du mari et de l'épouse, comment voulez-vous qu'on intègre une église qui deviendra épouse du Seigneur? Je pose la question aussi simplement. Si je n'ai pas conscience de la valeur du mariage dans mon couple, comment je peux prétendre faire partie de l'épouse qui ira rejoindre le Seigneur? C'est que je suis en train de me mentir, tout simplement. C'est pour ça, des fois, il faut qu'on descende sur terre et se mettre à genoux. Encore une fois, le Seigneur est toujours là pour nous accepter. Et si nous nous confessons et nous reconnaissons tels que nous sommes. Même dans l'Ancien, même dans la Genèse. Il est dit, Adam connut sa femme Ève. Le verbe connaître, vous voyez? Se marier, avoir même une relation sexuelle avec sa femme, c'est utiliser le verbe connaître. Exactement la même chose que le Seigneur a dit. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. C'est une communion. Dieu aurait pu se contenter de garder l'humanité dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Ça aussi, je reviens dans le jardin d'Éden. Avec plusieurs arbres. Vous connaissez l'histoire? De la connaissance, avec plusieurs arbres, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre centré, vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand on le définit, en fait, c'est un arbre centré sur nous-mêmes. Ça veut dire, je peux vivre dans le monde, mais avec mon arbre de la connaissance du bien et du mal, tout revient à moi. J'explique le monde par moi. Je suis le centre du monde. Vous voyez ? Je suis toujours au milieu. Un arbre centré sur nous-mêmes avec une insatisfaction permanente. Devenons ainsi des êtres égocentriques. Regardons et expliquons tout ce qui est extérieur à nous-mêmes par nous-mêmes, avec le risque de devenir des dieux. Et le diable n'a pas menti. Il leur a dit, vous serez comme Dieu. Mais en fait, il leur a dit la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Parce qu'en mangeant de la connaissance du bien et du mal, on devient comme Dieu. On juge le bien et le mal. Tout ça, tout passe par nous. C'est moi qui sais. J'ai ma vérité. Non. Je sais comment expliquer. J'ai mon expérience. J'ai ma vie. Non. Je suis comme je suis. Et tu dois m'accepter comme je suis. Voyez ? Ben oui. Attendez. Je suis né comme ça. Tu m'en veux pour ça ? Mais justement, le Seigneur nous appelle à changer. Quand on cherche à changer, là, on se rend compte que nous avons besoin d'être libérés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est adoubé dans ce monde. L'homme est vénéré. L'homme est vénéré comme un Dieu capable de résoudre tous les maux de ce monde. Vivre ainsi, c'est un enfermement sur soi. C'est vivre dans une insatisfaction personnelle, permanente, avec une chair et une nature qui ne sera jamais rassasiée. Nous aurons toujours besoin de plus, d'autre chose, parce que c'est toujours la nature qui veut. C'est l'enfer même, c'est même la définition de l'enfer. C'est l'enfer même comme nous pouvons le lire dans un des proverbes. Proverbe 27, chapitre 27, verset 20. L'enfer et l'abîme de perdition ne sont jamais rassasiés. Ainsi les yeux des hommes sont insatiables. Et même quand il s'agit de spiritualité à travers l'histoire, l'homme fabrique sa croyance. Il y a tellement de religions dans le monde où l'homme est au centre. Le plus grand ennemi de l'homme, je prends le risque de dire, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. L'homme fabrique sa croyance, issue de sa façon de définir le bien et le mal. Et l'histoire est là pour nous rappeler les conséquences de telles dérives. Et la conséquence, c'est la destruction de l'autre, c'est l'autodestruction et la destruction de la création. Nous avons vu un exemple hier avec la présentation de Toby. Tout ce cheminement chaotique est représenté par l'Adam déchu, le premier Adam, qui a choisi son épanouissement indépendamment de sa communion avec son Créateur, en optant pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chacun de nous, nous avons notre propre arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur, quand il est venu, il est venu nous délivrer de cet arbre pour nous emmener vers l'arbre de vie. Nous sommes tous des Adam. Oui, j'ai envie de dire, nous étions tous des Adam déchus avant notre conversion à Christ. Du moins, si l'œuvre du Christ fait son œuvre en nous, en nous libérant de nous-mêmes, dans un cheminement de sanctification. Voilà, ça revient. La sanctification. C'est-à-dire la sanctification, la vie dans l'esprit. Et la vie dans l'esprit nous libère de nous-mêmes petit à petit, d'une manière progressive. Ça peut prendre des mois, des années, mais plutôt toute une vie. Mais Dieu désire plus pour l'homme. Dieu désire plus pour l'homme. Et la parole de Dieu nous le dit. Il veut que l'homme quitte le jardin d'Éden. Il ne veut pas qu'on reste dans le jardin d'Éden. N'oublions pas, quand il y a le jardin d'Éden, c'est-à-dire il y a un Éden, il y a le jardin. C'est comme notre maison et le jardin. Mais le plus important, ce n'est pas le jardin, c'est la maison. Et on oublie la maison, on parle du jardin. Oui. Le jardin, ça permet d'aller vers la maison. Il veut que l'homme quitte le jardin d'Éden pour aller dans le cœur d'Éden. En traversant tout le jardin, sans y faire un détour. Le désir de notre Dieu, c'est de nous épargner l'errance du peuple hébreu qui a fait tout un détour alors qu'il pouvait aller tout droit vers la terre promise. Il a fallu qu'il mette 40 ans pour y aller. Le Seigneur veut nous éviter cela. Notre Dieu désire de toute éternité que nous traversons le jardin en passant par le centre, c'est-à-dire par le milieu, c'est-à-dire par l'arbre de vie. Et la Bible nous dit, Il est au milieu, il est au centre du jardin. L'arbre de vie qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui désire nous rencontrer ici-bas et continuer cette relation et cette communion plus tard dans une éternité. Il commence ici, il la continue dans l'éternité. Alors en hébreu, vous savez, le mot, quand on utilise le mot arbre en hébreu, on utilise le même mot qui veut dire arbre et bois. Quand on dit le bois ou l'arbre en hébreu, c'est la même chose. Et ce mot hébreu veut dire etz, E-T-Z, etz. Et bien ce mot, on le trouve dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, quand il s'agit du bois, et en l'occurrence un, qui me paraît très important, et qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23, deux versets. Je vous lis. Deutéronome 21, verset 22-23. Si l'on fait mourir, voilà, je vous lis. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, comme l'arbre, l'arbre de vie, Edz, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, Edz, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu à un objet de malédiction après Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Ça ne nous rappelle rien. Si on prend les deux passages, Deutéronome, avec celui de la Genèse, l'arbre de vie, si on les mélange les deux, et bien on se rend compte que ce passage veut nous dire de celui qui est attaché au bois et qui est devenu sujet de malédiction, sort la vie. Ça ne parle de personne? Nous avons le Seigneur déjà annoncé par des passages de l'Ancien Testament. C'est le message de la croix qui est présent dans l'Ancien Testament à travers des passages dans la Bible. Celui qui est maudit, qu'on a accroché, et c'est dans la loi, c'est maudit, on a accroché au bois et qui est une malédiction pour le peuple, il s'appelle aussi l'arbre de vie. Ça sort de lui la vie. L'Éden, c'est un lieu de délices. C'est ce qu'on appelle le paradis, le langage courant. C'est le lieu où réside notre Dieu, notre Père. Je dirais que l'Éden, c'est notre Dieu même qui relève d'un lieu céleste. C'est l'Éden. Vous voyez, être dans le jardin ne suffit pas. De même, être dans le parvis du temple ne suffit pas. De même, être dans le lieu saint du temple ne suffit pas. Nous sommes appelés à être dans le lieu très saint. C'est l'Éden. C'est-à-dire être dans la présence de Dieu en Christ, dans une communion avec lui. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Comme le Seigneur l'a dit lui-même, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Personne ne va à l'Éden sans passer par moi. Je vais le dire autrement. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est exactement la même chose. Notre préoccupation doit être celle de chercher à connaître le Seigneur et rien d'autre. Moi, Abdel, je suis appelé à chercher le Seigneur tout seul, que lui et rien d'autre. Car en cherchant à le connaître lui, nous connaîtrons simultanément le Père. Autrement dit, chercher à connaître le Seigneur, c'est cheminer vers et dans la vie de l'Esprit, qui nous fait entrer dans une dimension spirituelle dans notre vie chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul appelle homme spirituel, en opposition de l'homme charnel. Le chrétien charnel cherche une morale, une conduite, une habitude, une apparence, même sincère, de spiritualité. Mais indépendamment du Seigneur Jésus qui souhaite être notre boussole, notre sujet de recherche, notre objectif, notre raison d'exister. Parce que rechercher le Seigneur, ça demande des sacrifices. Et voilà, la nature humaine ne veut pas de sacrifices. Il faut payer le prix. Cette religiosité apparente ne nous sauve pas. La loi ne nous sauve pas. Mes frères et sœurs, vous ne me sauvez pas. Moi, je ne vous sauverai pas. Seule notre communion avec le Seigneur nous garantit l'éternité avec lui. Rappelons-nous des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles représentent ces croyants qui ont certes reçu l'Esprit, comme les vierges sages. Mais au lieu de laisser le Seigneur à travers son Esprit régner en eux, les transformer et les sanctifier, elles se sont contentées d'une vie religieuse, sans fruit de l'Esprit. C'est pourquoi elles vinrent demander au Seigneur, quand il est revenu, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, toute l'histoire. C'est se mentir que de penser qu'il suffit de croire que le Seigneur est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, et que nous sommes sauvés pour faire partie de ceux qui forment l'Église épouse du Seigneur. Prenons un autre passage qui parle profondément. Et je vous invite vraiment à l'écouter. Mot par mot. Et c'est clair, mes propos ne seront pas assez suffisants pour expliquer ce passage-là. Dans Matthieu 7, versets 17 à 23. Écoutez bien. Et je m'adresse à moi-même en disant cela. Tout bon arbre porte des fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La loi même si elle est sainte, la loi, même si elle est sainte, elle ne nous sauve pas. Elle doit être la conséquence de notre relation avec le Seigneur et non la cause. Puisque même la prophétie de Jérémie, si je lis, vous lisez Jérémie 31, versets 31 à 34, il est dit que, Jérémie dans sa prophétie, il dit que le Dieu espère, souhaite que la loi soit écrite dans notre cœur. C'est-à-dire par l'Esprit. C'est-à-dire cette vie dans l'esprit, c'est-à-dire cette sanctification. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Dieu prépare une épouse sainte. Sainte et soyons dans l'allégresse. D'y faire partie. Il prépare une épouse sainte, pure et sans tache, pour son bien-aimé fils. D'autant plus que Dieu fait de l'homme son collaborateur, et ça le privilège, en le rendant responsable de l'état de l'épouse. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis responsable de vous, vous êtes responsable de moi, c'est le sens même quand on prend la Sainte Cène. Voilà notre vocation céleste. En tant que chrétien né de nouveau, faire partie de l'Église épouse de Dieu, qui s'unira au Seigneur lors de son avènement. C'est l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas dans un film de fiction, comme le monde veut nous faire croire. Nous sommes des gens qui sont... On n'est pas sur Terre, on vit sur Mars. Non. Nous ne sommes pas en train de rêver. Le Seigneur reviendra, et on le sait. Et on en parle beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines. Comme il est monté au ciel pour enlever son Église, afin de s'unir à elle. Cette union réjouit le cœur du Père céleste, car il a créé le monde pour ce glorieux événement. Cette sainte union englobera ceux qui sont morts avant le Seigneur, avant l'arrivée du Seigneur, avant la venue du Seigneur, mais qui étaient, la Bible appelle, dans le sein d'Abraham. Vous voyez ? Tous ceux qui ont cru en Dieu avant la venue du Messie sont morts et sont dans le sein d'Abraham. Il suffit de regarder la parabole de Lazare, celui qui était malade devant la porte du riche. Il est dit, quand ils sont morts, eh ben, ce pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Il voyait l'autre rejeté dans l'enfer. Eh ben, tous ceux qui sont morts dans le sein d'Abraham rejoignent le Seigneur. Mais il y a aussi les chrétiens vivants, les chrétiens qui sont déjà décédés. Et sur les premiers qui vont rejoindre le Seigneur, la Bible nous dit. Et bien entendu, tous les chrétiens vivants lors de son avènement. Voilà l'Église qui se prépare. En tant que chrétien racheté par le Seigneur qui est le premier ressuscité après être passé par la mort, nous sommes appelés à nous préparer pour cette glorieuse rencontre, cette glorieuse espérance. L'œuvre accomplie par le Seigneur est double. J'en termine. D'un côté, il est mort pour nous, pour nous sauver. Et d'un autre côté, il nous demande à notre tour de lui donner notre main. C'est notre responsabilité de dire, Seigneur, je contemple ce que tu as fait. Eh bien, Seigneur, je t'accepte. Prends ma main, fais-moi passer par cette œuvre si tu as envie. C'est à notre tour de le laisser accomplir sa mort en nous, en cherchant à le connaître dans la prière, mes frères et sœurs. Dans la prière, il n'y a pas d'autre solution. Cherchez à le connaître dans la prière, la méditation et la communion fraternelle. Voilà la parole, ce que nous enseigne, en tout cas ce que j'ai retenu. La prière, la méditation et la communion fraternelle. C'est pourquoi je prie pour mes frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous ou qui ne viennent pas. On ne peut pas vivre une vie d'église en distanciel. C'est un mensonge encore du diable, il faut le dénoncer. Quand j'entends des frères et sœurs passer leur temps à suivre des cultes à travers Internet, il faut le dénoncer. Comment peut-on vivre une communion fraternelle, une communion en numérique? Et surtout quand on a le choix de le faire. Quand c'est imposé par la situation, je peux le comprendre. Mais quand le Seigneur te dit, tu n'as eu persécution, tu n'as rien, tu peux te réunir. Pourquoi nous allons pas nous réunir, voir nos frères et sœurs? C'est la communion fraternelle, la prière, la méditation et la communion fraternelle. Oui, mais encore mieux, des prières et des méditations collectives. Quand on prie ensemble, on sait que ça a encore plus de poids devant le Seigneur. Quand on chante ensemble, plus de poids encore. Et pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas, le Seigneur le sait. Mais ceux qui sont les seuls qui peuvent le faire, je les encourage à le faire. Mais le Seigneur connaît chacun de nous. Il connaît la situation. Comme tout à l'heure, j'ai prié pour Eric. J'ai prié pour Larissa. J'ai eu une discussion avec Toby. Mais je peux prier aussi pour Emmanuel. C'est le désir de l'Église et de notre cœur. Et on peut prier pour d'autres, plein d'autres. Je peux prier aussi pour ma famille. Et ainsi de suite. Vous voyez, on peut pas s'arrêter. On peut continuer à prier. D'un seul coup, je crois qu'on ne va pas s'arrêter. Prier pour nos enfants, nos familles, tout ce qu'on veut. Il y a tellement. Parce qu'on se rend compte que de cette vie collective, on en a besoin. C'est tout simplement la vie normale d'une église. Il faut prier et implorer le Seigneur de nous révéler la profondeur et la puissance de la vie corporelle de l'église, qui est son corps. Chacun est responsable du corps, et donc de son frère et de sa sœur. Donc je suis responsable de vous, de chacun de vous. Et si je vous offense, eh bien j'ai le devoir d'aller vous voir avant de prendre la Sainte Cène. Le chemin pour accéder à l'union finale avec le Seigneur afin de demeurer en lui est de chercher à le connaître dans la prière individuelle et collective, mais aussi dans une méditation individuelle et collective. Le connaître ici-bas nous prépare pour le rejoindre quand notre heure sonnera, pour aller le rejoindre et vivre avec lui pour l'éternité. Je ne prétends pas et je ne pense pas qu'un jour on atteindra le niveau de l'apôtre Paul. Je ne le crois pas. Tellement le niveau, il est trop haut. Surtout quand il a écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, le niveau, il est... Mais nous devons cheminer vers cette communion avec le Seigneur pour le connaître lui et lui seul. Car il est le seul capable de nous préparer pour faire partie de son Église sanctifiée et prête à régner avec lui. Alors je termine par les paroles de l'apôtre Paul lui-même, que nous devons nous approprier en tant qu'Église et les proclamer devant notre Seigneur, devant notre Père. C'est dans Philippiens chapitre 3, et je vais vous lire 3 versets, 12, 13, 14. Et je termine par cela. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Avons-nous été saisis par Jésus-Christ? Parce que si nous le sommes saisis par Jésus-Christ, alors nous cherchons à le saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est l'apôtre Paul qui dit, oui. Le grand apôtre Paul qui est en train de... Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de se lamenter, de regarder au passé. Avec le Seigneur, c'est toujours le présent et le futur. C'est une fin d'espérance et d'espoir. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.